Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. En direct jusqu'à 16h30 depuis notre studio, en présence de nos participants du jour et de nos invités avec qui nous allons partir à la découverte de la Fondation Saint-Hubert. Sans oublier de passer par notre chronique Les Rencontres de Marie-Claude, petit bonjour spécial à Eliane qui est bloquée ce jour par la neige et que nous retrouverons, j'espère, la semaine prochaine avec la chronique La Ménagerie d'Eliane. Nous cheminerons également en dernière partie d'émission avec un thème proposé par l'un de nos participants sur l'adoption. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son en intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a une grande table. On a aujourd'hui Antoinette, on a Jean-Bernard, on a Ignace, on a Eliane, on a Thierry, on a Luca, on a Emilien, on a Mariana, on a Marc et on a à la commande technique Pascal Vigolo et votre animateur Jimmy qui est là en direct avec vous. Bonjour Thierry, partons à la découverte d'une institution valaisanne engagée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement socio-professionnel et résidentiel, la Fondation Saint-Hubert. Quels sont les objectifs? Comment accompagne-t-elle les personnes au quotidien et surtout quel impact concret a-t-elle sur le parcours de vie. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Thierry, éducateur. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes venu avec beaucoup de participants. Je les ai cités en début d'émission. Bienvenue à vous.
Merci, merci de l'invitation.
Merci d'être avec nous. Pour commencer, je m'adresse à vous Thierry. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Fondation Saint-Hubert, quelle est sa mission principale et votre rôle ?
Alors, la Fondation Saint-Hubert est une fondation qui offre soit du travail ou des lieux de vie à des personnes en situation de handicap dans le Valais romand. Donc, nous avons 4 ateliers protégés dans différentes villes du canton, 3 foyers, et puis un centre de jour dont je suis responsable et avec qui que je représente aujourd'hui, un service de suivi à domicile. Donc voilà, ensuite toute personne qui est à l'AI peut bénéficier de nos services.
Oui, et puis vous êtes éducateur de profession, quel est votre rôle au sein de la Fondation ?
Alors je suis éducateur social de profession, j'ai été longtemps responsable du foyer de Sion, donc un lieu de vie. Et puis en 2018, on a mis en place un centre de jour à Sion parce qu'on avait une vague de personnes qui arrivaient à l'âge de la retraite. Des personnes qui vivaient dans nos structures, dans nos foyers. Et donc voilà, on a mis en place un centre de jour qui peut accueillir une douzaine de personnes. Alors essentiellement, ce sont des personnes qui sont retraitées, qui ne travaillent plus dans nos ateliers, mais qui restent résidentes de nos foyers. Et on a mis en place ça pour leur permettre de rester dans notre structure pour éviter d'aller en EMS, quoi, parce que... Voilà, 65 ans, c'est très jeune encore pour être en EMS. C'est des gens très, très dynamiques, très actifs.
Alors, vous avez donc, raison de le dire. Hein, on a pu, en préambule, avant l'émission, faire connaissance. Et effectivement, 65 ans, vous avez raison, on est encore à la force de l'âge. Hein, 65 ans, c'est pas une fin en soi, la retraite.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas la Fondation, depuis quand la Fondation existe-t-elle ?
Alors, on va fêter cette année nos 65 ans. Donc je ne suis pas très fort en maths, faites le calcul.
Alors peut-être qu'on a des gens... 25 donc.
Elle a été fondée en 1960.
Ouais, fondée en 1960, donc ça nous fait...
65 ans cette année, on va fêter le 65e anniversaire de la Fondation.
Bon, déjà, pas mal d'années. à qui, alors on nous avait dit à qui s'adressaient les prestations Parlez-nous un petit peu des différents types d'accompagnement proposés.
Alors justement, il y a des structures d'accueil, des lieux de vie, donc des foyers. Il y en a un à Sion, à Sierre et à Martigny qui peut accueillir 36 personnes, donc 12 lits en chaque foyer. Ensuite, on a les ateliers proprement dit, là, qui sont... Il y en a à Sion, à Grange, à Montet et à Martigny. Et donc là, on offre des places de travail, c'est du travail de production, je précise, c'est vraiment pas de l'occupation, hein, c'est les personnes reçoivent un salaire, c'est vraiment un travail de production. Ça concerne, sauf erreur, des centaines de personnes, hein, de travailleurs dans le Valais romand, qui travaillent en atelier. Donc la plupart voilà, sont autonomes, vivent en appartement, vivent dans leur famille et puis se rendent la journée sur le lieu de travail. Et puis certaines personnes voilà, vivent dans notre structure d'accueil. Après, le centre de jour, il a été créé pour les personnes retraitées. On accueille aussi des personnes qui sont en pré-retraite, disons à partir de 60 ans, des personnes qui travaillent à temps partiel et qui seraient intéressées de venir au centre de jour pour occuper leur journée. Et puis, on a, comme je disais avant, aussi un service de suivi à domicile. On a un éducateur qui suit des personnes qui se rendent chez elles dans leur appartement pour un suivi.
Eh ben merci.
Et puis aussi, on a un service de psychologue aussi au service de nos bénéficiaires, assistance sociale, enfin voilà.
Ouais, alors c'est un pluridisciplinaire,
oui, tout à fait,
toute,
oui.
toute une gamme de personnes qui sont là pour accompagner les gens. On parle souvent d'insertion socio-professionnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Bah, c'est l'insertion au travers du travail, c'est-à-dire la valorisation des personnes par rapport à leur activité professionnelle. Déjà, comme je disais, ces personnes ont un salaire. Et puis, au travers de ce qu'elles font dans le cadre professionnel, j'espère pour la plupart, ont du plaisir à faire ça, quoi.
Ouais.
Elles occupent leur temps de manière constructive et bénéfique.
Ouais, alors vous avez bien cité que ce n'était pas occupationnel. Hein.
Ouais.
Comment adaptez-vous le travail aux capacités de chacun ? Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas la même capacité. Comment finalement on arrive à adapter ?
Bon, alors moi, comme je vous ai dit avant, je suis responsable du centre de jour. J'ai une formation d'éducateur social, donc je ne suis pas vraiment à même à vous répondre sur cette question, puisque là, c'est plutôt le rôle des maîtres socioprofessionnels qui accompagnent les bénéficiaires sur leur lieu de travail. Donc, mais en gros, je pense qu'il y a des périodes d'observation où les personnes, on essaye de voir un peu les capacités, les compétences des personnes dans certains domaines pour savoir dans quel atelier les placer, quoi.
Mm-hmm.
Puisque nos ateliers sont très différents aussi. À Granges, c'est essentiellement un atelier mécanique. À Martigny, c'est essentiellement un atelier de bois. Et puis Sion et Montet sont un peu plus diversifiés, mais Montet sont spécialisés quand même dans la céramique, des choses comme ça. Donc on a vraiment plein d'ateliers, plein d'activités différentes qui pourraient convenir à beaucoup de personnes.
Ça fait déjà une belle description un petit peu de mm-hmm. cette fondation. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises locales, j'imagine ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
C'est quelque chose qui est important pour la fondation.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialisé dans l'aspect professionnel de la fondation, je suis dans le socio-éducatif. J'étais en foyer pendant longtemps, maintenant je travaille uniquement au centre de jour. Donc c'est un autre type d'accompagnement. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait aussi rester, d'être toujours autant engagé ? Est-ce que vous avez comme ça des choses qui vous disent, ce métier, ce travail que je le fais pour cette raison-là. Mmh. Aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui vous fait continuer à être encore dans cette envie de travailler pour la Fondation Saint-Hubert ?
À la base, je pense que j'ai choisi ce métier pour...
Alors, Luca, on va laisser aller. Je vous en prie, Thierry.
À la base, c'était pour exercer un métier où je me sente utile, disons, dans mon action. Et puis, je pense que j'ai trouvé ma place dans ce milieu. Ce que j'ai jamais aussi beaucoup dans le métier d'éducateur, c'est le fait que c'est un métier très varié. C'est comme si on avait trois ou quatre, voire plus, métiers en un. On fait vraiment beaucoup de choses différentes, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de routine. Et puis, le centre de notre travail, c'est quand même la relation avec l'autre. Donc, c'est quelque chose de quand même de très intéressant. Ce n'est pas toujours facile, mais... il n'y a pas de routine, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. En plus, le fait d'avoir pu mettre en place ce centre de jour, c'était un nouveau projet, un nouveau challenge, ça m'a motivé encore davantage. Et puis, aujourd'hui, je m'investis uniquement dans ce projet-là. Je ne travaille plus qu'au centre de jour. Et c'est vrai qu'tous les jours sont différents. Peut-être que les participants pourront en parler après, mais on fait plein d'activités différentes qui leur donnent beaucoup de plaisir, à moi aussi. On a des petits projets très intéressants pour tout le monde, donc c'est passionnant, quoi.
Alors, on aura l'occasion de revenir avec eux en deuxième partie d'émission. Mais est-ce que ça vous a peut-être de partager avec ce centre de jour et avec une population qui est à l'âge AVS. Est-ce que ça vous a permis, vous, sachant que vous êtes encore avec beaucoup de respect, vous êtes jeune, hein, j'imagine, mais est-ce que ça vous permet, vous, d'anticiper et de se dire, finalement, il y a encore, on peut encore être utile, on peut encore avoir des envies, même après l'âge AVS. Est-ce que vous, dans votre parcours personnel, c'est quelque chose qui a changé votre positionnement ou qui vous rassure peut-être pour le jour où vous allez peut-être vous aussi, comme tout à chacun, être à la retraite? Est-ce que ça a changé votre vision?
Oui, enfin, disons que avec les progrès de la médecine ces dernières années, c'est vrai que le vieillissement... il est quelque part ralenti pour pas mal de personnes. Enfin, on peut plus facilement profiter de la vie à partir de la retraite si on a la chance d'être en bonne santé. Et voilà, c'est des personnes qui me le prouvent tous les jours. Donc nous, si vous voulez, notre but, c'était justement de les accompagner dans ce passage qui est souvent pas facile pour certaines personnes, hein, d'arrêter son activité professionnelle. Il y a des gens qui ont tout donné dans leur vie pour leur travail. Le jour où ils arrêtent, souvent, ça peut être un choc où ils se sentent justement inutiles, où ils vont s'isoler, s'ennuyer. Au contraire, je pense que c'est comme une nouvelle vie. Si on a la chance d'être en forme, on peut profiter de tout le temps qu'on a. Et en fait, le but de ce qu'on fait avec eux au centre de jour, c'est vraiment justement pour éviter l'isolement et pour les maintenir en forme physique ou cognitive, c'est-à-dire les maintenir un certain dynamisme, sans non plus les surcharger ou les surstimuler, quoi. Mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre là, et les gens sont très satisfaits, franchement. Ils pourront peut-être en parler aussi après, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont appris de nouvelles choses au travers de nos activités. Ils ont appris ça uniquement à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'on peut toujours apprendre, découvrir de nouvelles choses et voilà quoi.
Mais vous avez raison de rappeler que finalement, à l'âge AVS, quand on doit passer le cap d'un monde du travail et puis d'une activité qui structure, souvent on a de la difficulté à faire ce passage-là, et de rappeler que vous avez raison, que de rester actif, de rester intégré socialement ou de faire, ça permet aussi de peut-être mieux accompagner sur les années à venir, de garder ses capacités cognitives, de garder un rythme. On aura l'occasion d'en discuter avec nos bénéficiaires. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à nos premières questions. Je vous propose un petit break musical. On se retrouve dans maximum 2 minutes. Restez avec nous pour la suite de notre échange avec les bénéficiaires de la Fondation Saint-Hubert qui nous font l'honneur d'être avec nous sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte un court instant avec la musique de Gims qui s'intitule « Ciel ».
Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre. T'es pas
par les doutes et la peur de te perdre. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel.
Tomber du ciel, comme le dit la chanson de Maître Gims. Alors attention à tous ceux qui sont sur la route ou qui sont en train de skier. Il y a eu quand même beaucoup de neige qui sont tombées ces derniers temps. Attention à vous sur la route aussi. Hein. Dites-vous que plus vite on arrive, on peut aussi prendre le temps et respecter tout à chacun sur la route. Attention au verglas ou peut-être aux conditions qui sont pas si clémentes ces temps-ci. Merci d'être avec nous, Antoinette, Jean-Bernard, Ignace et Liane. Vous êtes là aujourd'hui parmi nous, à Pavillon Nomade. Vous êtes au bénéficiaire de la Fondation Saint-Hubert, si j'ai bien compris, oui. Au foyer de jour. Oui. C'est bien ça. Alors, j'ai une petite question. Comment vous avez découvert déjà la Fondation Saint-Hubert et qu'est-ce qui vous a rassuré ou marqué lors de votre arrivée? Alors, on a Jean-Bernard peut-être, ou Ignace. Alors, Jean-Bernard. Alors, comment vous avez découvert déjà la Fondation Saint-Hubert? Qu'est-ce qui vous a rassuré ou marqué lors de votre arrivée?
C'est-à-dire que c'est mon médecin traitant qui m'a en somme orienté pour venir travailler ici à l'atelier. Parce que j'ai eu une opération cardiaque, donc j'ai dû changer une valve. Et après, c'est pour ça que je suis rentré ici à l'atelier.
Parce qu'avant d'être à cet atelier, vous faisiez quoi dans votre vie?
On travaillait de la vigne, comme tout Valaisan.
Alors, comme tout Valaisan, c'est un peu ciblé, mais oui, alors, c'est vrai, il y a beaucoup de vignes dans le Valais, mais donc vous avez travaillé combien d'années dans les vignes?
Depuis ma jeunesse.
C'est des vignes familiales?
Oui, et puis en famille, on était en somme. On était un peu en famille, vous voyez, on était. Regroupé, quoi.
Ouais. Donc j'imagine un moment après avoir œuvré pendant tant d'années comme travailleur. D'ailleurs, c'est un métier qui est quand même exigeant, pas facile. Hein.
Oui.
Comment s'est passée cette transition entre la fin de votre travail et puis peut-être un petit moment comme ça d'entre deux et puis un jour d'arriver à ce foyer de jour? Comment ça s'est passé?
Bien, j'ai pas fait directement une formation, mais au fur et à mesure des années, on a quand même une certaine expérience. Et on s'est un peu aussi, on a ensemble mis un peu d'une autre, quoi, pour essayer d'avancer dans le bon sens, quoi.
Dans le bon sens. Et vous avez cité tout à l'heure que c'est le médecin qui vous avait proposé d'aller au foyer de jour. Comment vous avez pris cette proposition?
Bien, j'ai accepté, vu que je n'avais pas le choix de suivre son objectif, parce que...
Alors, je passe à Thierry, je vous en prie.
En fait, Jean-Bernard, son médecin qui a dû l'inciter à intégrer la Fondation Saint-Hubert, mais pas tout de suite au foyer de jour.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a vécu longtemps en foyer et en étant travailleur dans un atelier Saint-Hubert. Vous voyez ?
Ah, vous étiez travailleur aux ateliers. C'était quoi comme atelier dans lequel vous étiez ?
J'étais au cartonnage. Moi, j'ai travaillé pendant 26 ans.
Alors, peut-être que les gens qui nous écoutent et peut-être autour de la table ne savent pas ce que c'est le cartonnage. C'est quoi le cartonnage, l'atelier du cartonnage? Ça consiste en quoi?
Il y avait toutes sortes, c'est-à-dire qu'il y a deux secteurs. Il faut connaître. Vous avez le cartonnage fin, puis moi j'étais au cartonnage où on faisait pour l'État du Valais les boîtes d'archives. Ensuite, on avait les emballages. Et puis, à part ça, il y avait encore d'autres choses qu'on devait participer, quoi.
Ouais. Il me semble dans les cartonnages. Alors, est-ce que vous faites aussi, peut-être que je me trompe, mais il y a quelques années, j'avais eu l'occasion d'accompagner un bénéficiaire. J'étais infirmier au CCPP de Martigny. Et puis, vous faites aussi les cartes de vœux ou pas, où il y a des enveloppes, où ça n'a pas à voir avec ça. Ou peut-être que je me trompe.
Non,
pas,
mais... cartes de vœux, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais comme il disait, voilà, c'est d'autres. Il y a d'autres institutions, ouais, qui font ce genre de choses. Mais comme il disait, boîte d'archives utilisées par les entreprises, l'État du Valais, enfin des choses comme ça.
Ah, ces petites boîtes en carton qu'on, ouais, retrouve dans les bibliothèques, voilà. C'est l'assemblage de ces boîtes-là.
Par exemple, okay. Entre autres, il y a plein de... Et par exemple, à l'atelier de Martigny, qui est spécialisé bois, ils font des coffrets pour des bouteilles de vin, plein de types de coffrets pour des entreprises.
Donc on est dans les emballages pour, ouais, un peu rendre joli ce qu'on va mettre dedans. Ouais. D'accord. Bah, merci Jean-Bernard déjà. Ouais. Pour les autres, alors parce que moi j'ai bien compris, vous étiez travailleur dans les vignes, après vous avez participé aux ateliers, puis une fois les ateliers sont terminés, vous êtes parti en Lingeavès, et finalement pour maintenir un rythme, certainement, on vous a proposé d'aller au foyer de jour. Pour les autres, comment vous êtes arrivé, quel est votre parcours, comment vous êtes arrivé au foyer de jour? Henriette, bonjour Henriette.
Antoinette.
Antoinette, pardon, vous voyez, quand je vous ai dit au début que je me trompais sur les prénoms, ça y est, ça commence. Antoinette.
Et moi j'avais l'âge de travailler, et puis comment j'ai connu ça, c'est que ma sœur travaillait à la documentation scolaire, à l'ODIS, et puis son patron, il a entendu parler de ça. Et puis il a dit, essayez de placer, dites à vos parents, d'essayer de placer votre petite sœur aux ateliers Saint-Hubert. Parce qu'il n'y avait absolument rien en Valais. J'ai dû aller dans le canton de Vaud, à Brétigny. Et là, on a trouvé, on a fait plusieurs places, puis on a vu que je pouvais travailler dans un atelier. Et puis alors, ils m'ont placé là-bas. J'ai fait 44 ans, et après j'ai rejoint le foyer de Saint-Hubert. Je suis rentrée au foyer en 2014.
2014, ça fait déjà quelques années, Thierry. Non,
mais c'est le foyer, parce que c'est, oui, pas, en fait, c'est le centre de jour.
C'est le centre de jour.
Un foyer, c'est un lieu de vie, oui, et puis le centre de jour, c'est simplement où
les gens viennent la journée.
La journée pour s'occuper.
Okay. Très bien.
C'est plus récent.
Ok. Antoinette, comment vous avez vécu cette transition entre les ateliers et aujourd'hui le foyer de jour?
Difficilement.
C'est-à-dire?
C'est que j'ai dû quitter la maison, l'appartement où j'étais, avec mes parents.
Ça c'était avant. Alors ça c'est oui, le passage de la maison au foyer,
voilà,
pas,
oui,
au centre de jour.
Non, pas au centre de jour.
Mais vous êtes actuellement au centre de jour. Comment, oui, vous avez vécu ce passage au centre de jour? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a été facile ou difficile pour vous?
Passage à la retraite, quoi.
Alors, on pourrait dire le passage à la retraite. Ouais. Thierry, vous avez raison, soyons au clair. Le passage à la retraite, comment vous avez vécu cette transition?
J'ai trouvé que le moment de passer à la retraite, j'étais contente. Ben, j'avais un petit peu moins à tenir les heures, quoi.
Alors, concrètement, vous êtes tous depuis déjà quelques temps au foyer de jour. Comment ça se passe une journée au foyer de jour? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment vous passez votre journée? C'est quoi une journée type dans un foyer de jour à la Fondation Saint-Hubert?
Il y a des jours où on fait du bricolage, puis quand il y a des, par exemple, carnaval ou comme ça, on prépare, puis on met sur les vitres, on décore un peu le centre de jour. Et puis aussi, il y a des fois, on fait des jeux, et puis tout d'un coup, on attrape un monstre pour rire. Et c'est parti pour la journée.
Et ben alors, on entend qu'il y a quand même une vie communautaire, comme ça, sociale. Quelle est l'importance de pouvoir être toujours en contact avec les autres? Parce que j'imagine que l'un des points clés de ce foyer, c'est de pouvoir se réunir entre vous, de garder un lien social. Comment ça se passe avec une journée avec les autres bénéficiaires? Je ne sais pas, Eliane, comment ça se passe pour vous? Bonjour Eliane.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir. Eliane, qui en off nous a fait un petit son, parce qu'elle a, pour nos éditeurs qui ne nous voient pas, elle a un joli collier bleu, puis elle a surtout un petit instrument. C'est un instrument qui siffle. À quoi ça sert ça? Avant qu'on reparte sur les questions, Eliane, à quoi ça sert?
Pour me dire, c'est parce que j'étais, on a été dans un camp, parce qu'on fait les camps d'été puis les camps d'hiver. Alors, on fait beaucoup des camps. Et puis, alors, au camp d'hiver, on fait des fois les lotos ou bien les trucs. Alors, quand on faisait, alors, quand je faisais je gagnais au loto. Alors, je pouvais choisir ce que je voulais.
Et donc, ça, c'est un gain que vous avez eu.
Alors, elle m'a dit, Elia, si tu veux, tu prends. Alors, je l'ai pris. Comme Malika, elle s'appelle. C'est elle qui m'a donné, parce que c'est la maman qui avait. Alors, elle a dit, j'aimerais bien savoir à qui je veux donner. Alors, elle m'a donné à moi.
Oh. Ça, c'est touchant, Eliane. Vous avez raison. Bon, en tout cas, il est très joli. Eliane,
oui.
Vous avez parlé de camp d'été et camp d'hiver. Ça m'intéresse.
Camp d'hiver, le camp d'été et le camp d'hiver. Nous allons des fois, on va au camp d'été, on part au Tessin.
Mais ça, c'est dans le cadre du foyer de jour. C'est organisé ou c'était avant?
Non, ça, c'était avant. Pendant qu'on fait le ça c'est quand on fait le foyer, on est au foyer, mais là ça c'est pour quand on part en vacances.
Ok,
mais le foyer du jour, ça me plaît beaucoup parce que je fais beaucoup de choses avec Thierry, avec Elena, avec Émilie, et puis Katia, puis tous les autres éducateurs.
En tout cas, il y a plein de choses organisées. Quand vous étiez aux ateliers, vous partiez au camp, maintenant vous êtes au foyer de jour, est-ce qu'il y a des journées comme ça, qui ne sont peut-être pas des camps, mais est-ce que vous sortez à l'extérieur des murs du foyer? Est-ce qu'il y a des journées, des visites peut-être de musées?
Nous allons, des fois, on va visiter des collés. Oui, comme hier, on a été visiter le...
Oui, Thierry.
On va voir des expositions, oui, des musées. Voilà. On fait beaucoup de choses.
Oui.
Des thèmes différents, je dirais. On a des activités liées au mouvement, donc un peu physique, c'est-à-dire des balades, de la gym douce, oui, pour les maintenir en forme.
Oui. On fait tout ça.
Des activités de jeu. À l'intérieur.
On va jouer au bowling.
Ou à l'extérieur,
voilà. On va jouer aux fléchettes.
Voilà.
On fait aussi. Mais vous faites de plus du billard.
est-ce que vous avez essayé de jouer au billard, Eliane?
Je voulais essayer, mais j'arrive pas bien.
De souvenir.
Avant, j'arrive beaucoup plus de la...
À la pétanque, elle est très forte à la pétanque.
Ah, Eliane, elle est forte à la pétanque.
Eux aussi, la pétanque, ouais, oui. Ouais. Puis des fois, on danse, mais maintenant, on ne va plus. Avant, on allait danser tous les lundis.
On en avait parlé dans une émission il y a quelques temps en arrière de ce fameux thé dansant.
Ouais,
est-ce que ça existe toujours?
Oui, ça existe toujours à Martigny, c'est Procédé Clouté qui organise ça. Ouais. Les lundis, c'est vrai qu'on y allait régulièrement. On allait aussi dans la fondation Domus qui organisait ça.
Oui.
Là, on ne peut plus y aller parce qu'on n'a pas de bus disponible ce jour-là. C'est tout, juste question de logistique.
Oui.
Mais on fait beaucoup de choses différentes.
Oui.
On fait de la musique, karaoké, un atelier de musique avec des instruments. On fait de la cuisine, du bricolage, comme disait Antoinette.
Oui.
Des activités avec des animaux.
Oui, on a va visiter.
Donc, parfois, c'est à l'intérieur de nos locaux. On utilise un appartement et parfois, on se déplace, on a un bus. Donc, on a souvent des activités à l'extérieur.
Alors, je vois qu'il y a une multitude d'activités. Ignace, avec toutes les... Bonjour, Ignace.
Oui,
allez-y, Eliane.
Je m'excuse parce que moi, j'ai travaillé à la... j'étais avec mes parents et je travaillais la vigne aussi. Je suis vigneronne. Normalement, mes parents, tout ça. Et puis, parce que j'ai travaillé à la coop, parce qu'à l'anthropocoop, ils cherchaient du monde pendant l'été, tout ça. Et puis moi, quand j'ai eu fini les écoles, tout ça, j'ai demandé, j'ai entendu ma voisine, elle me disait, il y a j'entends qu'à la COP, ils cherchent du monde. Puis moi, j'ai dit, ah bon, je vais aller voir. Alors, j'ai commencé très jeune, hein. Je suis très, très, très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai fait 35 ans à la COP.
En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un d'actif, qu'il a été toujours actif. Et heureusement qu'aujourd'hui, le foyer vous permet de maintenir cette activité. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à Ignace. Bonjour, Ignace.
Oh, bonjour.
Merci. Bonjour Ignace. Je vous en prie, en quoi consiste finalement, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller au foyer de jour?
Alors le foyer de jour, c'est vraiment super, comme d'habitude. Vu que je faisais deux travaux, c'était au Home Saint-Sylvavé que je travaillais, à mettre quoi, les tables, enfin la vaisselle, mettre les... aller mettre les fourchettes, couteaux, etc. Enfin, non, pardon, tout pour le dîner. Et puis à faire la vaisselle, à prendre un chariot, à remettre en bas, puis à faire tous ces trucs comme ça. Et puis à faire des boîtes à domicile. C'est-à-dire, c'est désinfecter les boîtes. Puis comme on demande à quelqu'un de m'aider, c'est comme de rien dire. Alors, finalement, des fois, il y en a une centaine de boîtes. Alors après, le soir après, je suis content de redescendre.
Mais vous êtes content de redescendre parce que vous vous êtes senti utile d'avoir partagé des moments, parce que ça a permis de structurer vos journées, ou vous êtes content de rentrer parce que vous êtes fatigué, puis vous dites ça y est, enfin, on va me laisser tranquille. Moi, j'ai envie d'être devant ma télé, on me demande de venir tous les jours au foyer, alors moi, je préfère être.
Juste là, il décrit son travail parce qu'Ignace, c'est un peu spécial, il travaille encore.
Ah
Il travaille encore trois jours par semaine dans un EMS où il travaille en. Ce que tu viens de dire. Quoi.
Oh oui.
Et il vient chez nous au centre de jour, deux jours par semaine. Mais là, là il parlait de son travail.
Ouais. Donc là, vous êtes, on pourrait dire, en transition petit à petit, de gentiment finir les ateliers, et puis peut-être, j'espère que vous allez pouvoir maintenir ça le plus longtemps possible, parce que, effectivement, le travail, c'est la santé. On entendait d'ailleurs cette chanson, je crois que c'était de qui? C'était Bourville, je crois, le travail, c'est la santé.
Oh, non?
C'est Henri Salvador. Ah, bah voilà, heureusement qu'on a les aînés avec nous pour nous remettre un peu sur le droit chemin. Mais. Qu'est-ce que on pourrait dire les moments les plus agréables que vous vivez dans ce foyer de jour, hein, où vous êtes là, c'est quoi le moment le plus agréable? Est-ce que c'est le moment où on se retrouve à table? J'imagine que vous mangez tous en même temps à midi. Hein. Quel est le moment le plus agréable au foyer de jour?
C'est faire la cuisine, aider à faire la cuisine aussi le mardi. Et puis c'est jouer au bowling ou bien jouer aux fléchettes ou... faire des trucs, oui, au pétanque aussi.
Bon, alors on voit qu'il y a une activité quand même qui est quand même très variée, très, on pourrait dire, et aussi très inclusif, hein, parce que finalement, quelles seraient les contre-indications pour ne pas pouvoir participer au foyer du jour? Est-ce qu'il y en a déjà?
Disons qu'il y aurait peut-être, s'il y a des problèmes de mobilité pour certaines activités. Mais non, sinon il y a même la personne qui aurait des petits problèmes de mobilité, on va justement l'inciter à être dans le mouvement, que ça soit la marche, la gym douce, pour garder les acquis, quoi. Enfin, si c'est conseillé par les médecins, bien sûr, hein, mais non, il n'y a pas du tout de contre-indication, quoi. Puis alors totalement inclusive. Là, par exemple, un projet qu'on a mis en place depuis la fin de l'année passée, c'est des échanges intergénérationnels avec des UAPE, donc avec des enfants de 5-6 ans. Il y a deux UAPE de Sion avec lesquels on organise des activités communes une fois par mois. Et ça se passe super bien. Enfin, les gens, c'est vraiment un grand plaisir pour eux et pour les enfants aussi. Enfin, c'est vraiment super bien.
Peu la question que j'avais aussi à vous poser, c'est quels étaient les projets actuels ou futurs de la Fondation. Mais le projet que vous avez mis en place est juste extraordinaire. Hein. Ouais. Je prends l'exemple de mon fils qui était à l'école à Trois-Torrents et ils allaient manger tous les jours à midi à tour de rôle à l'EMS des Trois Sapins, et il m'en parlait toujours avec tellement de bonheur de dire, mais papa, c'est incroyable, on était là, à assis à une table, et puis il y avait une petite mamie qui nous racontait un peu son parcours de vie, et puis il trouvait ça tellement extraordinaire, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec les gens qui étaient à l'EMS, qui disaient aussi, mais nous, ça nous apporte du bonheur de voir cette jeunesse,
tout à fait,
je trouve formidable que vous puissiez mettre ça aussi en place à la Fondation Saint-Hubert.
Ouais. Non, c'est vraiment un grand plaisir, pour moi aussi, enfin, personnellement, je les ai accompagnés souvent lors de ces échanges, ça se passe très très bien.
Ouais. Antoinette, vous avez envie de rebondir sur ça?
Eh bien, une fois, j'étais avec, justement, avec l'équipe, là, à PE. Eh bien, j'avais une petite fille, elle était toute seule, puis j'étais vers elle, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as besoin, tu voudrais que moi je vienne avec toi? Elle a dit oui, mais j'ai peur. J'ai dit, mais viens seulement, t'as pas besoin d'avoir peur, j'adore les enfants.
Ah, bah ça c'est formidable. Alors j'ai une petite dernière question qui est peut-être en lien avec peut-être pas la peur mais l'inquiétude. Quel message vous aimeriez transmettre à quelqu'un qui hésite à venir au foyer de jour? Imaginons, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ou peut-être des gens autour de vous que vous connaissez. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à quelqu'un qui hésite à venir au foyer de jour? Alors Luca, prenez seulement un micro.
Il faut se forcer, même si on n'a pas envie, il faut insister et puis taper sur le même clou, comme on dit.
Alors il faut se forcer. Alors peut-être que c'est une proposition, mais on peut pas toujours se forcer. Hein. Des fois c'est difficile, mais qu'est-ce que vous auriez envie de vous qui êtes déjà un petit peu bien aguerri au parcours des ateliers et à cette transition à JAVS et d'aller dans un foyer de jour, qu'est-ce que vous pourriez transmettre et dire aux gens qui hésitent à y aller, Jean-Bernard?
Je dirais plutôt encourager, peut-être ça. Essayer de motiver, voilà, motivation et encouragement.
Ouais,
moi, je dis des choses, des points positifs.
Ouais,
donc,
tout à fait.
Peut-être.
Moi, je dirais essayer.
Oui, voilà.
Là, c'est vrai qu'on a, l'année passée, on a ouvert aussi notre structure à des personnes de l'extérieur des foyers, des gens qui travaillent dans nos ateliers, mais qui n'étaient pas en foyer. Donc les gens étaient un peu réticents au début, ils étaient à la fois intéressés, mais on voyait qu'il y avait des craintes parce que c'est des personnes qui avaient jamais vécu en institution, donc ils avaient peut-être peur un peu d'être en prison ou d'être c'est des peurs qu'on peut comprendre, mais finalement dans les essais qu'on a fait, la majorité des personnes ont apprécié, puis aujourd'hui elles viennent une demi-journée par semaine, un jour par semaine, ça dépend des gens. Donc moi je dirais essayer pour se rendre compte de ce qu'on fait, de l'atmosphère qu'il y a, des bienfaits que ça fait.
Ben vous avez tout à fait raison, je pense que de toute manière, sans connaître, sans essayer, on ne peut pas savoir.
C'est comme la nourriture.
C'est comme la nourriture. Et j'allais pas dire, parce qu'il y a des vignerons autour de notre table, de toute manière c'est avec modération, mais on ne sait pas si un vin il est bon tant qu'on ne l'a pas goûté, s'il n'est pas bouchonné. Donc essayez. Merci à vous pour ces échanges riches. Grâce à vous, nous avons découvert un petit peu mieux le travail essentiel réalisé par la Fondation Saint-Hubert, un secteur clé de l'inclusion et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap en Valais. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter leur site internet ou prendre contact directement avec l'institution. Merci à vous. Merci pour cet échange.
Merci Thierry. Merci à vous.
Merci. On retrouve les rencontres de Marie-Claude. Chaque jeudi, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, elle a une nouvelle fois rendez-vous avec Éric Giraudet. Éric est infirmier ici à Malévo, encore actuellement. La médecine l'a toujours très intéressé, que cela soit du côté technique que du côté psychologique.
Les rencontres de Marie-Claude.
Alors ça a démarré comme j'étais dans les soins somatiques, ça a démarré par les soins intensifs, où là, effectivement, j'étais plutôt dans la physiopathologie du corps humain, avec des soins très poussés. Souvent des patients intubés, j'ai fait aussi beaucoup de post-chirurgie cardiaque, avec une grosse technicité, on avait un pôle qui était juste incroyable à Saint-Étienne. Donc c'était énormément dans la technicité. Et au départ, je voyais beaucoup ça. Et puis, alors évidemment, quand un patient est intubé et sédaté, en termes d'interaction, la seule chose que nous devons faire en tant qu'infirmière, c'est de parler au patient, même s'il est sédaté, de lui expliquer tout ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu même pendant les études, parce que j'ai eu la chance de faire un stage en soins intensifs de neurochirurgie et un en réanimation. Donc là, j'ai pu apprendre avec des personnes de pointure comment interagir avec un patient sédaté. Et ensuite, bah, évidemment, lorsqu'on réveille les patients, il y a toute cette interaction verbale et non verbale, et ce moment du réveil aussi, qui est un moment étonnant, où en fait, il faut s'imaginer comme quand on se réveille dans un sommeil profond, on émerge, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on dort, etc. Donc je pense, j'imagine le réveil comme ça. Et là, le soutien, il est très important, parce qu'on réveille d'abord les gens avant de leur enlever l'aide respiratoire. Donc il y a tout un moment où ils ont encore un tube dans la trachée et où ils sont réveillés. Donc là, c'est un moment crucial. Et puis ensuite, alors dans les soins somatiques, vu que dans les soins intensifs ou réanimation, c'est des pathologies graves, il y a tout cet aspect justement psychologique, je vais dire, de soutien de la personne et d'arriver à tirer la personne vers le haut. Parce que c'est très subtil à ce moment-là, et puis c'est vraiment sur la corde raide. Un petit plus peut faire basculer le rétablissement dans le bon sens, et peut-être l'absence de ce petit plus peut faire stagner, voire basculer dans un autre sens. Donc voilà, c'était l'aspect psychologique d'interaction qui m'a stimulé très tôt.
Et là, on puise où pour cet aspect psychologique? On puise dans quoi? On puise dans ce que nous sommes comme êtres humains ou dans ce qu'on connaît effectivement du médical? Comment ça se passe?
Alors, je dirais les deux, hein, parce que il y a toute l'expérience personnelle. Depuis que je suis tout petit, je regarde les adultes comme ça, vers le haut, et puis je les ai observés toute mon enfance interagir et réagir dans leurs actions, etc., ou dans leurs inactions. Et ça m'a toujours interpellé. Donc, en fait, depuis toujours, je suis interpellé par le fonctionnement humain, l'interaction psychosociale humaine. Donc ça, ça a été une première chose. La seconde, c'est que pendant les études d'infirmier, il y avait des cours qu'on appelait les TP, les travaux pratiques, où on faisait parfois des jeux de rôle ou parfois des cours un tout petit peu plus théoriques sur... mais qui était très interactif, sur comment se comporter, quel est ce rôle infirmier propre, qui est très subtil. Alors, on parle souvent d'empathie. Je pense que ça va bien au-delà de l'empathie, parce que la définition de l'empathie est trop pauvre pour définir le rôle infirmier propre. Ça va nettement au-delà. En fait, je pars du principe que les médecins prescrivent ce qui va aider à la guérison et puis que nous appliquons les traitements psychologiques qui vont vraiment, associés au traitement, permettre la guérison, permettre la convalescence, le rétablissement complet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très lié, le travail du médecin et le travail de l'infirmier ou de l'infirmière. Je trouve que le travail de l'infirmière n'est pas assez valorisé dans nos sociétés. Alors un petit peu plus, ça commence à venir. Le Covid a fait changer quelques comportements. Mais voilà, on reste pour certaines personnes, et très souvent pour des patients-patientes, les sous-fifres des docteurs. Et on a beau aider au max une personne, il y aura une forme de clivage où elle nous remettra à notre place, souvent en présence du médecin. Alors qu'en psychiatrie, le travail psychothérapeutique, il est totalement partagé. Et puis c'est l'infirmière qui est le plus souvent avec le patient ou la patiente. Le médecin voit la patiente ou le patient maximum une demi-heure, une heure par semaine. Bon, avec quelques exceptions, bien sûr. Et nous, on les voit tout au long de la journée lorsqu'on travaille. Donc c'est une grande importance de ce travail d'interaction entre le soignant et le ou la soignée en psychiatrie.
Le rôle de l'infirmier, un rôle subtil lorsqu'on travaille comme Éric Giraudet ici à Malévo. On va le retrouver jeudi prochain au micro de Marie-Claude Cudry. Et à l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Alors, on a entendu pas mal de choses hein, dans cette deuxième opus échange. Hein. On a entendu de patients sédatés, de difficultés au réveil. On a entendu parler du rôle infirmier. On a parlé de valorisation. On a parlé aussi de sous-fifres des docteurs. Alors, c'est vrai que ça a fait sourire, en tout cas, étonné, et même encore maintenant. Comment vous, après cet échange, après cette deuxième opus, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu? Mariana?
Alors moi, après avoir entendu ça, je me dis que c'est un petit peu ce que je pense aussi, parce que bah, moi, je suis hospitalisée ici à Malévo. Et c'est vrai que les infirmiers sont beaucoup plus là que les médecins avec nous. Et les infirmiers, ils sont pas assez valorisés par rapport à ce qu'ils font pour nous.
Alors, valorisation, comment vous, vous pensez qu'on devrait valoriser les infirmières? Parce qu'Éric Gironel, on parlait de cette période du Covid, c'est vrai, hein, où il y a eu quand même toute une remise en question, hein, finalement, du rôle infirmier et finalement de l'intensité de la charge de travail. Alors, bien sûr, on a eu à la fin de chaque journée des gens qui applaudissaient, des gens qui tapaient dans, dans leur casserole. Alors, c'est super, c'est une certaine forme de reconnaissance, mais qui est, on pourrait dire, sur le moment. Mais comment vous, vous estimez peut-être qu'on devrait valoriser le travail des infirmiers et des infirmières, et des soignants en règle générale, hein, parce qu'on parle là d'infirmiers, mais moi je mets tous les soignants et professionnels de la santé, comment, parce qu'on doit être tous à valoriser, mais ce serait quoi les pistes de revalorisation? Luca, alors Luca, on va vous donner un micro.
Des petits plus, des compliments, je ne sais pas tellement comment expliquer, moi.
De la reconnaissance, des petits
la
plus.
La reconnaissance, oui. Voilà.
Oui, bah, déjà ça, Marc, bonjour Marc.
Bonjour, des meilleurs salaires, c'est toi l'infirmier en fait autour de cette table.
Donc, alors non, alors on est...
Si
on
tu
est,
te sens un sous-fifre de médecin.
On est deux infirmiers d'ailleurs, je
alors,
laisserai la parole
à
Emilien.
On va laisser la parole
mais vous, à Emilien. Mais vous avez dit, Marc, la revalorisation salariale. Oui. Alors moi je suis d'accord avec vous, je pense que... on gagne bien notre vie, hein, ça c'est sûr, hein, mais je pense que pour le métier qu'on fait, les responsabilités qu'on a, avis aux entendeurs qui nous écoutent, je pense qu'il faudrait effectivement une revalorisation salariale. Alors ça passe pas que par ça, hein, ça passe aussi par d'autres choses. Alors je sais pas, Emilien, bonjour Emilien.
Bonjour.
Alors, j'ai deux questions pour vous. Déjà, la première, c'est effectivement par rapport à cette... comment vous, infirmier, que vous êtes infirmier en psychiatrie, soins généraux, hein, formation d'infirmier généraliste, mais spécialisé maintenant en psychiatrie, ouais. Est-ce que vous avez le sentiment comme ça d'un manque de valorisation ?
Un manque de valorisation, alors ça passe éventuellement par un manque de moyens. Alors moi, pour la petite histoire, je suis français, donc j'ai pratiqué pendant 13 ans en fait en France, dont 10 ans en psychiatrie, et je suis sur Malévo depuis à peu près un an et demi. Donc si je dois faire un petit comparatif, c'est vrai que les moyens que j'ai en Suisse ne sont absolument pas les mêmes que ce que j'avais en France. Il y a des conditions de travail qui sont quand même bien meilleures en Suisse. Ne serait-ce que, ben, en l'occurrence, par la présence médicale. Je suis passé d'un service où on avait un psychiatre qui était à 60% dans mon unité, à là, une unité où on a un médecin-chef clinique et trois assistants. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, moi, niveau revalorisation, je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à me prononcer. Par contre, si on devait parler de valorisation, en fait, moi, je pars du principe que ce soit, j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est la même chose, qu'en France comme en Suisse, on a... cette expression que je dis souvent, on a un peu l'opinion publique dans notre poche, c'est-à-dire que les gens sont quand même relativement bienveillants vis-à-vis des soignants, remerciants de notre travail. Et moi, déjà, partir de ce postulat-là, je trouve que c'est déjà hyper important parce que c'est ce qu'il y a de plus motivant, en fait, dans notre pratique. Après, oui, on peut parler de revalorisation salariale, ça c'est sûr, mais moi, j'ai toujours dit, je préfère, si on doit parler de revalorisation salariale, je ne voudrais pas qu'il y ait que le salaire. Je préfère qu'on ait un petit peu plus de moyens. Je préfère être, au lieu qu'on nous augmente, je dis une bêtise, de 50%, je préfère qu'on nous augmente de 25% et que les 25% restants, ça soit pour nous avoir un petit peu plus de personnel et un petit peu plus de moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on manque de moyens, on fera du boulot de moins bonne qualité et forcément, ça se ressentira dans notre estime, dans notre conscience professionnelle et ça se ressentira aussi vis-à-vis de nos patients.
Ouais, bah vous avez tout à fait raison. Moi, je partage aussi votre on va dire, positionnement. Je pense que ça passe par un peu plus de ce qu'on appelle des EPT, hein, c'est-à-dire le nombre de soignants qu'on a par rapport au nombre de patients qu'on a, hein. On a effectivement un manque d'infirmiers, on a un manque de lits, et je pense aussi qu'on doit aussi valoriser nos collaborateurs avec les formations, hein. Alors une fois de plus, ça reste le nerf de la guerre, c'est de l'argent, mais je pense aussi qu'on devrait pouvoir accéder à plus de formations, un cursus pour les infirmiers, et là, effectivement, on a un peu de retard. Alors heureusement, aujourd'hui, l'hôpital du Valais propose des formations, on a la possibilité de faire, mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait améliorer ça.
On en vient très souvent au nerf de la guerre, qui est que jusque dans les années, je crois que c'est jusqu'en 93, ça s'est arrêté le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, qui était vraiment une spécialité. On était infirmier de secteur psychiatrique et qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, où on constate que le nombre d'heures d'apports théoriques sur la santé mentale a dégringolé en l'espace d'une vingtaine d'années. Et ce qui est dommageable, parce que nous, on s'en rend compte justement de travailler avec des infirmiers de secteur psychiatrique quand on voit tout ce qu'ils peuvent nous apporter sur le plan théorique et pratique. Nous, on se rend compte qu'il nous manque énormément d'outils. Et comme le dit Jimmy, c'est important de continuer à se former parce qu'on a quand même beaucoup de retard, sachant que le secteur de la santé mentale est quand même, je crois, ces 30 ou 40 dernières années, est le secteur de la médecine qui a le plus évolué favorablement, en fait.
C'est vrai. Vous avez raison. Bah, merci en tout cas d'avoir échangé et répondu à nos questions. Le temps avance, on va malgré tout pousser un petit peu les minutes pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant, parce qu'on parlait de regard finalement de notre profession et de ce qui veut changer. Je vous propose qu'on se quitte un court instant avec la chanson de Tal qui, elle, s'intitule « Sans un regard ».
C'est comme une bouteille à la mer. Quand l'envie nous tourne le dos, reste en mémoire quelques mots. Tout notre passé qui tombe en poussière. Comment comprendre quand dans nos têtes l'histoire se répète et qu'entre nous le temps s'arrête? Pourquoi rester? Pourquoi rester? À quoi ça sert? Il n'y a plus rien à faire. Faut changer d'air. Je m'en vais ce soir, ce n'est pas ma faute. Je n'arrive plus à y croire, je n'ai plus la force. Pardonne-moi, je m'en vais ce soir sans un remords. Désolée, je m'en vais ce soir sans un regard.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après ces échanges fantastiques, hein, que ce soit avec les bénéficiaires et Thierry, éducateur de la Fondation, qui travaille pour la Fondation Saint-Hubert, des échanges incroyables, et après avec les rencontres de Marie-Claude qui nous ont quand même donné à discussion encore, hein, et notamment aussi, on a encore parlé retraite là, depuis combien d'années autres, et on se disait avec Emilien qu'on avait encore pas mal d'années à faire avant d'être la retraite. Mais il faut bien que quelqu'un soit là pour que vous puissiez aussi bénéficier de soins, parce que c'est aussi parce qu'on travaille qu'on peut cotiser pour les autres. Donc je suis content de travailler malgré les conditions dans lesquelles on aimerait toujours pouvoir être mieux. Mariana, vous nous avez proposé un dernier thème aujourd'hui pour finir notre émission, qui est un thème qui me touche particulièrement, qui est celui de l'adoption. Qu'est-ce qui fait que vous vouliez parler de l'adoption aujourd'hui ?
Moi, j'ai voulu parler de l'adoption parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a une année. J'ai quitté mon cercle familial et j'ai fait beaucoup de familles d'accueil. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Ça a été une période très compliquée pour moi. Mais là, j'ai trouvé une famille d'accueil avec qui ça va super bien. Et pour moi, ça a été compliqué de pouvoir trouver ma place. Mais je commence à leur faire confiance. Et franchement, je trouve que ça m'apporte énormément de pouvoir me sentir aimée quelque part où je ne suis pas née, en fait, où je n'ai pas grandi.
Bah merci. Est-ce que vous connaissez des amis, des gens autour de vous qui sont adoptés ? Parce que là, vous nous parlez de l'adoption et aussi, bah, finalement, pour vous, d'avoir eu peut-être trouvé une place parmi des gens qui vous ont adopté comme famille de cœur, oui. Mais qui est différent du thème de l'adoption. Quand on parle d'adoption, on parle d'enfants qui sont... alors, on peut adopter des gens de la Suisse, hein, et de la France. Hein. En règle générale, quand on parle d'adoption, on pense souvent à des enfants qui viennent de l'Amérique du Sud, comme moi-même, oui. Ou de l'Asie, ou de l'Afrique. Est-ce que vous connaissez comme ça dans votre entourage des gens qui sont adoptés ?
Non, pas forcément, mais vous ?
Alors moi,
je crois que vous êtes adopté.
Moi, je suis adopté, alors je serai prêt à répondre à vos questions. Mais je sais aussi qu'Antoinette, on en a parlé en off, vous connaissez des familles qui ont adopté des enfants.
C'est la famille Timachou. Ils ont adopté 7 gosses, et dont 2 malentendantes, et une, ils ont réussi à faire parler, et l'autre, pas. Et l'autre travaille aux ateliers Saint-Hubert. Bindou, elle travaille aux ateliers. Et puis, j'ai mon copain, qui était aussi adopté par des familles, et ma cousine a adopté un Péruvien, qui est venu avec la gale. Ici, et ils l'ont soigné, et maintenant il est guéri.
Donc on peut dire que l'adoption, c'est une chance, peut-être en plus, de pouvoir améliorer ses conditions, c'est vrai. J'imagine autour de la table, on a peut-être des parents, parce qu'on apprend à se connaître. Est-ce que pour ceux qui sont parents, est-ce qu'à un moment, ça vous est traversé l'esprit de dire, bah tiens, est-ce que j'aurais pu adopter, et si oui, pourquoi je l'aurais fait et sinon, pourquoi je ne le fais pas ? Est-ce que quelqu'un a envie d'échanger sur cette question ? Alors, Luca, prenez seulement le micro.
Ce n'est pas un choix facile parce qu'adopter un enfant ou un adulte qui a des problèmes, pas forcément psychiques, mais qui a des problèmes de santé, c'est vraiment difficile.
Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a la loi. Hein. On a vu cette dernière année, la loi s'est un petit peu endurcie sur les conditions d'adoption. Hein. Certainement qu'il y a eu quand même peut-être des situations qui ont fait qu'on en arrive là. Mais aujourd'hui, finalement, c'est quoi l'adoption ? C'est quoi le but de l'adoption ? Pourquoi on adopte selon vous, Mariana ?
Bah, selon moi, c'est aussi pour aider la personne qui... a besoin d'être adopté. Je parle de l'adoption en général, que c'est une personne qui... Enfin, les parents l'ont abandonné ou... Enfin, il peut y avoir plusieurs circonstances. Mais pour moi, l'adoption, c'est donner de l'amour à un enfant qui ne l'a pas forcément eu.
Oui, c'est vrai. C'est donner de l'amour à un enfant qui ne l'a pas forcément eu, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas eu ou est-ce que pour des raisons, peut-être qu'il l'a eu, l'amour, mais peut-être qu'à un moment, la vie était difficile au point de dire... Parce que je pense que, pour l'avoir vécu, hein, c'est vrai que je suis moi-même adopté, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça doit être difficile hein. Moi, je suis père hein, aussi, j'ai fait des enfants, j'en ai pas adopté, mais je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça doit être un crève-cœur. Moi, aujourd'hui, si je devais abandonner mon fils ou ma fille pour des raisons qui seraient tout à fait légitime, mais je me dis, mais à quel point ça doit être douloureux en tant que parent, parce que pour moi, ça le serait, mais je me dis quand même que quand on fait cette démarche-là, on le fait dans un but de pouvoir espérer une meilleure vie pour son enfant. Alors, on fait la différence entre les enfants qu'on a abandonnés dans un orphelinat, qu'on a déposés dans des centres, que finalement, ceux qu'on balance dans la rue et puis on les livre à eux-mêmes. C'est encore différent. Hein. J'imagine qu'un enfant qui est mis dans un orphelinat, c'est aussi, pour moi, peut-être certainement une preuve d'amour, parce que je me vois crois pas, moi, aujourd'hui, même aussi difficile que soit ma vie, de me dire, allez, je vais abandonner mon enfant. Et je pense que c'est une preuve d'amour, parce que, comme vous l'avez dit, c'est qu'on espère qu'il ait peut-être un peu plus de chance ailleurs. Mariana.
Moi, je voulais juste en quelques mots dire que je suis vraiment reconnaissante, parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu ça, mais en étant adulte. Donc, c'est pas forcément facile d'avoir... d'être adopté entre guillemets quand on est adulte, parce que on connaît nos parents et en s'éhouissant, il y a beaucoup de choses aussi qui nous rattachent à eux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile encore, mais je suis quand même assez contente du parcours que j'ai pu effectuer jusqu'à maintenant, et d'avoir rencontré toutes ces familles, ça m'a beaucoup enrichie, et d'avoir pu trouver une famille qui m'apporte ce que j'avais besoin finalement, et je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour moi.
Eh ben, s'ils nous écoutent, ils seront contents. Et s'ils ne nous écoutent pas, vous pourrez leur dire qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de l'émission sur pavillonnomade.ch. C'est vrai que moi, j'aimerais passer quand même un petit coup de gueule au niveau de cette adoption, parce que l'ayant vécu, mon papa et ma maman sont profs de physique, ils pouvaient avoir des enfants. Et je leur ai posé une fois la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez finalement pas voulu faire d'enfants et adopter des enfants? Puis ils m'ont dit, ils étaient profs à l'époque au collège de Stal, mais aussi au cycle, ils se sont dit, mais finalement, il y a plein d'enfants qui ont besoin de soutien. Est-ce que finalement, de faire des enfants qui ne sont peut-être pas conscients de la chance d'évoluer dans une famille qui leur apporte autant de l'amour, d'une qualité de vie, hein, culturelle et autre. Moi, je remercie mes parents, mais vraiment avec beaucoup de cœur sur tout ce qu'ils nous ont fait découvrir. Mais ils ont dit, je préfère donner cette chance à quelqu'un qui ne l'a pas, mais sans rien attendre d'eux, hein, parce qu'ils n'ont jamais attendu qu'on les remercie de ça, mais je les remercie aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils ont décidé d'adopter parce qu'ils estimaient que peut-être cette chance devait être donnée à des gens qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est une chose que je remercie. Mais mon coup de gueule, c'est sur le fait qu'on a toujours des émissions sur l'adoption, sur ce qui ne va pas. On ne parle que des adoptions. Quand on parle d'adoption, c'est difficultés d'intégration, des familles qui finalement on adopte un enfant, mais si c'est malheureusement pour l'abandonner une deuxième fois. Enfin, on entend plein de choses comme ça. Et finalement, on ne met jamais au jour et en avant les adoptions qui se passent bien. Et je suis sûr, parce que j'en connais autour de moi déjà, que ce soit ma famille proche, hein, dans ma famille, on est 3 enfants adoptés de Colombie. On n'a aucun lien de familial génétique, à part le patrimoine génétique sud-américain. Mais on s'en sort tous plus ou moins très bien, avec les carences qu'on peut avoir affectives, nutritionnelles, mais on s'en sort très bien. Mais ça, on n'en parle jamais. On ne va que faire des émissions ou des articles sur l'adoption, ça ne va pas, les dérives de l'adoption. Mais où est-ce qu'on met en avant toutes ces adoptions qui se passent bien, hein? Moi, où j'en suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu m'imaginer qu'arrivant à l'âge de 5 ans de Colombie, j'allais être aujourd'hui avec le parcours que j'ai eu. Alors oui, j'ai eu un parcours très atypique. Aujourd'hui, j'ai un métier que j'adore. Je suis dans des responsabilités aussi. Mais mince, j'ai envie qu'on mette des fois aussi en avant aussi les bonnes adoptions quand ça se passe bien. Alors, Antoinette.
Et puis, j'ai justement mon neveu qui est une famille qui a adopté deux filles qui viennent de l'Inde, de Bombay. Et une des deux est maman d'une petite fille de 4 ans, de Naya, et je la vois très très souvent.
Ah bah alors, une petite salutation pour eux. En tout cas, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de rebondir encore. On arrive gentiment à la fin de l'émission, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rebondir sur l'adoption? Marc, on vous écoute.
Oui, je trouve très noble les gens qui sont capables de dire il y a tellement d'enfants malheureux, alors autant en prendre un plutôt que d'en fabriquer un de plus. Et c'est une démarche que j'aurais volontiers eue à une certaine époque. Mais bon, j'ai 4 enfants, mais je pense qu'il n'y a aucune... Moi, je ne ferais vraiment aucune différence entre un enfant adopté et un enfant biologique. Ma mère avait l'habitude de dire qu'elle ne croyait pas du tout à cette histoire de voix du sang. Vous savez, on prend un enfant à la naissance, on le fait élever dans une autre famille, puis quand il revoit ses parents 20 ans après, sans le savoir, il va les reconnaître d'instinct. Ma mère disait qu'elle ne croyait pas du tout à ça, et moi, j'y crois pas du tout non plus. Nos parents, c'est les gens qui nous ont élevés, quoi. Ouais.
Alors moi, je me suis baladé, pour la petite anecdote, j'ai été adopté à l'âge de 5 ans, et puis pour mes 45 ans, je suis retourné en Colombie, en présence de mes enfants et de ma femme, pour la première fois à l'orphelinat. Je me suis baladé, j'ai aucun papier, mais j'ai pas reconnu comme ça, par la loi ou la voie du sang. Je n'ai pas, non, mais par contre, là, vous avez raison, c'est que nos parents sont ceux qui nous éduquent, ceux qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Moi, j'entends souvent des gens dire, ah, je te présente mon demi-frère. Et comment ça, ton demi-frère, c'est ton frère. Moi, mon frère, je ne vais pas le présenter en disant je te présente Pascal, mon demi-frère. Je dis non, je te présente mon frère. On a grandi dans la même famille, on a grandi avec les mêmes parents. Pour moi, c'est mon frère, malgré qu'on n'a pas ce même sang. Mais c'est vrai qu'on entend souvent je présente mon demi-frère, je te présente mon fils adoptif. Mais mes parents, je dis non, je te présente mon fils. Et puis moi, quand je parle de mes parents, c'est je te présente mon papa, ma maman. Parce que c'est ceux qui m'ont permis d'être ici autour de cette table avec vous, hein, c'est sûr. Mariana.
Je voulais juste finir. Pour remercier toutes les personnes qui ont adopté des enfants, enfin des personnes, parce que je pense que ça leur a, enfin je parle pour eux, mais ça a dû apporter beaucoup de choses. En tout cas pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Et même si ça fait pas longtemps, ça peut changer la vie à quelqu'un. Donc vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont adopté des gens.
Oui, vous avez raison, je me joins à vos remerciements parce que moi, ça a changé ma vie, vraiment. Et paradoxalement, je suis adopté et j'ai fait 2 enfants. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'on m'a souvent posé cette question, on dit, mais Jimmy, pourquoi toi, t'as pas adopté ? Moi, j'avais besoin certainement de reconstruire avec la naissance de mon fils les 5 premières années de ma vie que j'avais pas. J'avais fait énormément de photos, je crois que j'ai jamais fait autant de photos de mon fils parce que j'en avais pas moi. Moi, j'avais pas de photos de cette période-là, mais j'avais besoin de pouvoir certainement me reconstruire à travers cet enfant et j'aurais aimé peut-être adopter, mais avec ma femme aurait aimé un enfant. En plus, moi, à 2, j'étais déjà content. Le choix du roi, un garçon, une fille. Et puis, on était dans un bon équilibre. Mais c'est vrai que la question s'est posée. Et puis, je me suis dit, je vais aider autrement. Donc, voilà. Merci à vous. On arrive à la conclusion de notre émission. Elle touche gentiment à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. Je remercie tous les participants aujourd'hui et d'avoir eu avec nous Eliane, Ignace, Jean-Bénard, Antoinette, Thierry de la Fondation Saint-Hubert. Je remercie Mariana et Emilien et Luca et Mar pour l'échange. Et surtout, je remercie Pascal Vigolo pour la technique. On se quitte avec les dingues et les paumés de Hubert Félix Thiéphen.
Lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils te... tournent dans un cachot avec la gueule en moi. Ils sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les boules s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka, en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule vient.